Lancement d'un projet pédagogique innovant, la création d'une mini-entreprise interlycée valorisant les produits du terroir ardéchois pour les deux années scolaires 2023-2025. Étaient regroupés les lycées agricoles Olivier de Serre, lycée hôtelier de l'Argentière et Marcel Gimond pour cette initiative conjointe visant à offrir aux élèves une expérience concrète du monde entrepreneurial. Ce projet interdisciplinaire, sous le leitmotiv « Apprendre l'entreprise en faisant », permettra aux élèves de développer des compétences comme le travail en équipe, l'esprit d'initiative, l'autonomie et la créativité. Chaque lycée va, durant ce projet, mettre à profit ses compétences propres. Voici la première partie de ce reportage sur InfoRC.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Florian Morge, je suis un des enseignants du lycée agricole, je suis enseignant de zootechnie.
Monsieur Mazoyer, je suis professeur de cuisine au lycée hôtelier de l'Argentière.
Monsieur Lanny, professeur en lettres-histoire au lycée Gimond.
Madame Sigvard, professeur en service et commercialisation au lycée hôtelier de l'Argentière.
Monsieur Granger, enseignant en vente au lycée Marcel Gimond.
Et Madame Ragot, enseignante au lycée agricole en économie.
On est là ce matin pour le premier temps fort du projet mini-entreprise, donc où on rassemble les trois lycées pour démarrer ce projet, qui est un projet qui va durer 2 ans. Voilà. Il y aura un deuxième temps fort au printemps. Pour ce premier temps fort, ce qu'on a prévu aujourd'hui, c'est un petit temps ensemble pour un peu vous présenter le projet et organiser la journée. Sachez qu'on sera divisé pendant une grosse majorité de la journée en 4 groupes tournants. Donc 2 groupes, un peu de découverte des activités agricoles du domaine et 2 groupes un peu plus centrés sur le projet. Voilà.
L'idée, c'est un temps de rencontre important puisque c'est vraiment le point de démarrage de notre projet mini-entreprise et pour lequel on va avoir pas mal de missions et pas mal d'activités. On va être bien mobilisé sur ce projet. Vous allez apprendre plein de choses, notamment à coopérer, à communiquer, à faire en sorte que vous puissiez agir ensemble pour la bonne réalisation de ce projet mini-entreprise. Les 4 ateliers. Alors, un atelier viticulture, un atelier chèvrerie et fromagerie et 2 autres ateliers vraiment dédiés à la mini-entreprise. Un atelier, on va l'appeler cahier des charges, et un atelier nom et valeur de cette mini-entreprise. Voilà.
Alors, le domaine Olivier de Serre, en fait, c'est on va dire, le support pédagogique de l'établissement école qui comprend le lycée école et le centre de formation pour adultes, donc situé au Pradel. 2 ateliers, un atelier Capré, un atelier donc, vitivinicole de 11 hectares. Donc, nous sommes à la fois en cave coopérative, nous sommes coopérateurs donc, et nous apportons une partie de la vendange, les 3/4 de la vendange à la coopérative de Montfleury. Donc, qui est situé donc là, à Mirabel. Et nous avons une cave de vinification dans laquelle nous vinifions entre 80 et 150 hectos par an. Un hectolitre, vous avez ça en tête, ça fait 100 litres. Ce qui fait, on va dire, 12 000 à 20 000 bouteilles donc, produites et commercialisées par les soins de l'exploitation agricole. Je vous propose d'aller... L'objectif, c'est d'aller voir des vignes et une cave. Donc, on va avancer... Et si ça vous convient, je peux parler aussi en même temps.
Qu'est-ce que ça veut dire vitivinicole ?
La viticulture, donc, c'est l'art de cultiver la vigne. Donc on est vraiment sur la notion de production de raisins. Et l'œnologie, la viniculture, c'est l'élaboration des vins. Donc à partir de la matière première que sont les raisins, pour la transformation en vin.
Ouais, les 11 hectares, c'est 11 hectares plantés.
Oui. Donc le domaine fait 55 hectares et dont 11 hectares de vignes. Ouais. Et réparti en 3 îlots autour des bâtiments quoi, de la Bastide du domaine.
C'est quoi la différence entre du vin nature et du vin pétillant et plein d'autres variétés?
En fait, un vin nature, c'est un vin dans lequel on n'a pas rajouté d'additifs ou d'ingrédients spécifiques. En fait, pour conserver le vin, assurer sa stabilité, on peut être amené à ajouter des sulfites.
Oui.
Et donc, dans le cas d'un vin nature, on ne rajoute pas de sulfites. Pour obtenir un vin, quelle est la différence entre un vin et un jus de raisin? Voilà, il y a de l'alcool, donc fermentation. Voilà, donc ça va être. Les levures vont utiliser les sucres contenus dans le raisin pour le transformer donc en alcool. Et ces levures, ça peut être soit des levures dites indigènes parce qu'elles sont présentes sur la baie de raisin, soit pour contrôler la fermentation et obtenir le profil de vin que l'on souhaite, on peut amener des levures cultivées. Et donc dans le cas des vins nature, on travaille aussi souvent avec des levures indigènes. Quoi. Et ce qui permet l'expression du terroir, comme par exemple le microbisme qu'il va y avoir en fromagerie, qui va définir un profil aromatique de fromage. Là, les levures indigènes définissent le profil du terroir du vin. Quoi.
Et on nous a aussi parlé en cours de vin pétillant.
Alors, des vins pétillants, c'est vrai qu'on en produit aussi sur le domaine. En fait, c'est tout simplement une méthode qui permet de conserver des sucres résiduels qui ne vont pas être transformés en alcool. Et ces sucres présents encore dans la bouteille, les fermentations vont se poursuivre. Et donc, quel est le produit de la fermentation alcoolique? On a des sucres consommés par un ensemble de micro-organismes, dont des levures, qui donnent, on a dit, de l'alcool et du gaz, et plus précisément, dioxyde de carbone, donc du CO2. Donc, et c'est bien le CO2, comme une bouteille d'eau minérale de Val, je ne vais pas faire de publicité, ce qui rend le gaz aussi, donc ça va être du CO2. Quoi. Donc, et c'est ce qui donne donc, ce gaz présent dans la bouteille, le vin pétillant, quoi. Comme la Clairette de Die, le champagne ou tous les... Juste, on a parlé de cépages et de variétés. Donc, juste devant vous, vous avez un conservatoire de mûriers avec différentes variétés, pour le coup. Vous voyez tout de suite là, la différence entre les trois arbres présents, la différence de feuilles et donc de variétés. Revenons à la vigne. Là, vous êtes sur une parcelle de Merlot, conduit en bio depuis 2009. Donc, pour les élèves du lycée, quelle est la nature du sol sur le Pradel?
Je n'ai plus aucune idée.
Ben on va s'approcher, vous allez le toucher. C'est vrai, le sol est sec là, donc c'est pas très représentatif. Est-ce que vous avez du sable sous les pieds? Les autres aussi, vous pouvez toucher. Ça sent bon, c'est doux, ça salit pas les doigts. Donc, est-ce que ce sont des sables?
Non, c'est argileux, je crois.
Oui, donc ce sont des sols argilo-calcaires. Ça veut dire qu'il y a une proportion d'argile très importante. Et vous voyez aussi, ces cailloux blancs sont des cailloux calcaires, à la différence de ces cailloux noirs qui sont des...
Volcaniques.
Oui, voilà. Donc c'est du basalte. Alors pourquoi volcanique? Qu'est-ce qu'il y a derrière nous, au nord du domaine? Entre Villeneuve-de-Berre et Privas, et entre Rochemort et Vaisseau, c'est la bordure orientale du massif central, et c'est le massif du Coiron. D'accord? Un massif volcanique, donc de 8,5 millions d'années. Et donc, vu qu'on est en proximité, on a eu, par le fait de l'érosion, des apports, des boulis et de pierres basaltiques sur le domaine. La vigne est conduite de manière assez classique. On a donc un espacement de 2,30 m entre les rangs et sur le rang, 1 mètre entre chaque pied de vigne. Alors, si vous faites la division, 1 hectare, c'est combien de mètres carrés? Allez, aux enchères montantes. 10 000 mètres carrés. Et si je fais 2,30 m par 1 mètre, donc ça fait 2,3 mètres carrés, on est d'accord? Si je divise 10 000 mètres carrés par 2,3 mètres carrés, on arrive de tête, c'est facile, à 4 400 plants à l'hectare, d'accord? Donc là, devant vous, vous avez 4 400 plants de vignes présents. Vous voyez que le sol a été travaillé. Alors, on a développé l'agroécologie sur le domaine du Pradel avec plusieurs techniques. Déjà, la conversion en viticulture biologique du vignoble, mais aussi le travail sur la fertilité du sol. Donc, avec des apports de matière organique pour engraisser et nourrir le sol, qui est support de développement de la vigne. Et ça, grâce à notre élevage donc de chèvres, on va composter les fumiers et on va porter entre 8 à 10 tonnes de compost, de fumier et de chèvres par hectare. Ensuite, nous semons des engrais verts, tout simplement parce que dans le sol, on a un taux de matière organique, on a une vie biologique, une vie microbienne dans le sol qui a besoin aussi d'être un petit peu soutenue, dynamisée. Et pour cela, on sème donc des engrais verts, c'est ce qu'ils sont en train de faire sur la parcelle à côté. Dès que l'on a vendangé, on travaille le sol et on sème alors trois espèces pour le coup, de la vesse, de l'avoine, et la troisième, je vais dire tout à l'heure, qui m'échappe pour le coup. Et là, ça va permettre de couvrir le sol, d'accord ? Donc là, on attend la pluie. Dès que les plantes vont se développer, elles vont permettre de couvrir le sol tout l'hiver. Et à la fin de l'hiver et début du printemps, on va rouler, en fait, on va utiliser un rouleau spécifique, très lourd, qui va venir écraser, en fait, les plantes sur le sol. Et ça va faire, en fait, comme un paillage, un mulch, qui va venir protéger le sol de rayons du soleil, ça évite de laisser donc, par exemple les UV venir dégrader les éléments en surface, mais aussi ça va permettre une dégradation des matières organiques dans le temps. Et ça ne consomme pas non plus d'énergie fossile pour venir broyer ce que vous pouvez voir aussi dans les vignes. Et évidemment, il y a un autre élément qui est fondamental, sur le rang pour le coup, donc on évite de semer. Et par contre, on évite aussi que les adventices, c'est quoi ?
Les herbes.
Voilà, plus communément appelées une mauvaise herbe. Est-ce qu'elles sont aussi mauvaises que ça ? Non. Pas forcément. Mais par contre, elles peuvent gêner à un moment donné le plant de vigne au regard de la consommation en eau et en éléments nutritifs. D'accord ? Donc, on va, pour éviter cette concurrence-là, notamment au niveau de l'eau, on va venir enlever ces herbes en travaillant donc sur le rang avec un outil mécanique. Alors on a deux outils, une lame ou alors une, comme des doigts, comme une brosse avec des doigts. Donc c'est deux éléments qui viennent supprimer les adventices sur le rang de vigne, au pied des cèpes de vigne. Voilà pour l'essentiel. Pour poursuivre sur la partie agroécologie, on a développé aussi la présence de l'arbre et des haies autour du vignoble, telles que la haie spontanée que vous avez derrière vous, qui va venir abriter un certain nombre d'auxiliaires de culture. Par exemple, dans le cas de la tordeuse de la grappe, c'est en fait le ver, mais en fait c'est la chenille d'un papillon qui va venir consommer la grappe, et un certain nombre d'oiseaux, mais aussi de chauves-souris qui vont venir consommer ces larves-là, ces chenilles, et donc éviter le développement de la tordeuse de la grappe, par exemple.
Des nettoyeurs naturels.
C'est ça, exactement. Donc c'est vrai qu'on les appelle des auxiliaires, mais c'est un exemple aussi de ce qui peut être appelé les échanges entre la nature et la culture. Et a fortiori, c'est renforcé par la présence de ce bois de chêne, les arbres entre 250 et 350 ans, donc du vieux bois, du bois à cavité, qui va venir abriter un certain nombre d'oiseaux, d'insectes et de chauves-souris. Voilà. Et donc on maintient la présence et on renforce la présence de haies autour du vignoble, soit par les haies présentes naturellement, mais aussi par la plantation de haies. Là, sur 2 ans, nous allons planter 1500 mètres linéaires de haies sur le domaine, dont une haie prévue cet hiver vers la parcelle d'Artaban, qui va être une haie anti-dérive, qui va éviter par exemple que les produits de traitement ne subissent une dérive pour aller perturber l'environnement et les personnes autour. Alors c'est vrai que nous, en utilisant des produits en viticulture biologique, il y a moins de risques, mais dans le cas de produits de synthèse, il est nécessaire de protéger les populations qui sont autour du vignoble, a fortiori lorsque ce sont des personnes sensibles, vous, mais aussi jeunes enfants ou personnes plus âgées. nous avons implanté en 2012 une parcelle dans l'agroforesterie viticole, c'est-à-dire que nous avons carrément planté des rangées d'arbres dans la parcelle de vignes. Donc nous avons 10 rangées de vignes, et toutes les 10 rangées de vignes, une rangée d'arbres, avec du mûrier, de l'amandier et des fruitiers, tout simplement pour faciliter la circulation de la faune, c'est la notion de trame verte ou de corridor écologique, mais aussi pour apporter un certain ombrage à la parcelle, pour éviter les périodes et les températures hautes qui viennent gêner le cycle de la vigne, on a implanté des arbres qui vont apporter un certain ombrage. Je propose qu'on fasse le tour de la cave et on n'aura pas le temps de faire une dégustation des vins. Merci. Donc là, le vignoble est un vignoble moderne. Donc la vendange se fait soit à la machine à vendanger pour ce qui est apporté en cave coopérative, soit à la main par vous. Et donc c'est vendangé en caisse de manière à trier et d'avoir une belle qualité de matière première. Une fois ramené à la cave, donc les caisses de raisin sont vidées pour les vins blancs et vins rosés dans le pressoir qui est devant vous. Et nous allons obtenir donc un jus de raisin, un mou, d'accord ? Et on va arrêter le pressurage en fonction de ce que l'on veut, c'est-à-dire lorsqu'on a trop de goût vert d'herbacé parce qu'il reste la rafle. Qu'est-ce que c'est que la rafle dans une grappe de raisin ?
Voilà, entre eux,
c'est ça, c'est ce qui est la partie verte, un petit peu ramifiée, qui supporte les baies. Donc, il y a deux cas de figure. Là, on peut mettre la grappe entière dans le pressoir. Et pour éviter d'avoir des goûts d'herbe dans le vin, ou trop de tanins, les tanins qui sont contenus principalement dans les pépins, mais aussi dans la baie, on va arrêter le pressurage. On envoie, grâce à une pompe, la petite pompe rouge là-bas, ce mou, ce jus de raisin, dans les cuves, qui sont des cuves donc à chapeau flottant, vous voyez, donc une petite potence qui supporte un chapeau avec une chambre à air, qui va venir en fait s'ajuster au volume de vin contenu dans la cuve. On laisse donc la fermentation se réaliser en contrôlant bien évidemment un certain nombre de paramètres, notamment autour de la température. Il faut que ce soit aussi à l'abri donc de l'oxygène. On peut réaliser aussi différentes techniques comme des pigeages. Le pigeage, en fait, il y a une pige, c'est un outil qui permet de réenfoncer les baies en fait dans les cuves. Ou alors des bâtonnages en fait qui permettent en fait de remettre en suspension les particules qui peuvent se déposer, que l'on appelle les lies. D'accord ?
Jusqu'à dessous.
Voilà. Et cela, donc ça, c'est donc Arnaud Prigent, le maître de chai, qui va suivre la vinification. Et avec les conseils aussi du technicien de l'Institut coopératif du vin, un œnologue, qui va ajuster les pratiques de vinification en cave. Pour la partie rouge, on peut être amené à encuver directement dans ces cuves en béton qui font 40 hectos. On peut enlever la rafle parce qu'on ne veut pas avoir ce goût herbacé. Et donc, on utilise les rafloirs quelque part par là. Et c'est un gros tamis, l'appareil qui a un capot bleu, comme votre moulin à légumes. En fait, là, c'est un tamis horizontal avec de gros trous. On fait passer les grappes de raisin à l'intérieur. Et tout simplement, les baies de raisin vont passer à travers les trous. On va récupérer que ça, que l'on va venir mettre dans ces cuves en béton. Et là, on laisse la fermentation se réaliser. C'est là qu'on peut utiliser, par exemple, le pigeage ou des remontages. C'est-à-dire que les raisins vont libérer leur jus, mais ça va donc décanter entre guillemets. Donc, ça veut dire que les jus de raisin vont rester en bas et en surface, on peut avoir une espèce de croûte, entre guillemets, constituée par les peaux des baies. Et donc, de temps en temps, en fonction des besoins, on vient réappuyer cette couche supérieure à l'intérieur. On vient réhomogénéiser en fait la cuve. Et on peut le faire aussi donc, soit par pigeage, soit par remontage, c'est-à-dire qu'on branche la pompe en bas de la cuve et on refait passer en circuit fermé le futur vin, le jus de raisin qui est en fermentation, par-dessus pour arroser en fait, le chapeau donc, de la cuve. Là, on est sur les blancs, et puis donc là, c'était plus la technique donc, des rouges. Si on continue sur les rouges, vous avez bien compris qu'il y avait la baie de raisin avec le jus qui va fermenter. Là-dessus, on va donc décuver. Décuver, c'est tout simplement donc, faire sortir, approchez-vous là de la cuve. On dispose le pressoir qui est devant vous, le bûcher là, devant la cuve. On ouvre la trappe du bain. Des jus vont s'écouler, mais ensuite on va prendre le mélange de raisins, de pulpes, de peau, de pellicules, de pépins donc mélangés, que l'on va mettre dans le pressoir. Et comme pour les blancs tout à l'heure, on va presser jusqu'à obtenir ce que l'on veut au niveau du vin, c'est-à-dire en présence de tanins, de goûts aussi herbacés ou d'autres goûts, d'amertume aussi. Et là-dessus, on va remettre en cuve pour obtenir une décantation. Et maintenant, on va avoir à peu près les mêmes techniques entre les blancs et les rouges. Une fois que ces vins sont en cuve, il y a plein de particules en suspension qui vont venir se déposer. On appelle ça donc les lies. On va les enlever, à un moment donné, pour avoir un vin clair, un vin transparent avec une belle robe. Et ces lies vont être donc évacuées en distillerie pour obtenir de l'alcool, etc. Et les vins, on peut avoir deux techniques. Soit carrément on ne va pas clarifier le vin, mais on va le garder tel quel, juste avec des décantations, en cédant du froid. Donc ça, c'est une pratique qu'on utilise aussi sur certains vins nature. Mais aussi, on peut filtrer les vins pour obtenir une robe. Alors, c'est quoi la robe d'un vin ?
C'est la couleur.
Voilà, sa couleur, son caractère aussi, qui peut être brillant, etc. Et pour obtenir une robe, plutôt donc quelque chose de clair, de brillant, on va filtrer les vins. On peut auparavant aussi rajouter des éléments qui vont venir coaguler donc, les protéines présentes dans le vin pour les déposer et les clarifier. Mais on peut tout simplement aussi faire une filtration, plus ou moins poussée. Et ensuite, on va apporter des sulfites ou pas pour la conservation des vins en bouteille. On a créé une coopérative avec plusieurs agriculteurs donc, pour acquérir une machine pour mettre en bouteille. Donc la mise en bouteille se fait au domaine par l'équipe et l'étiquetage, la mise en carton aussi. Les vins sont enfin prêts pour la commercialisation. Alors dans les vins que l'on produit, on produit un blanc à base de Viognier qui s'appelle Interface. On produit un rosé qui s'appelle Tendresse. Donc, qui est issu de la parcelle de l'agroforesterie, un assemblage de Syrah et Grenache. L'assemblage variable en proportion en fonction des années, mais les années précédentes, c'était en, voilà, 50% Grenache et 50% donc, Syrah. Ensuite, on a la cuvée Mère des Fontaines, donc, qui est le Merlot bio, la parcelle que nous sommes allés voir, donc un rouge, qui peut être élevé, là aussi, en fût. Là, c'est une particularité aussi de la vinification. Vous voyez qu'on a plein de techniques différentes. L'intérêt des fûts, on met une partie de la cuve de Merlot bio donc, en fût pour favoriser la micro-oxygénation permise par le passage de l'air dans le bois. On ne recherche pas des arômes boisés. Vous pouvez connaître, il y a certains vins qui ont un goût de bois, entre guillemets. On ne recherche pas ça, mais on recherche à adoucir un petit peu les tanins présents. Donc, Mère des Fontaines en Merlot. Kungta Intemporé, c'est la plus vieille parcelle de vigne du domaine, qui a été plantée en... La première récolte est 66, et qui est plantée en Grenache noir et Cinsault. Et la dernière cuvée, c'est la cuvée donc La Bastide, un assemblage là aussi de rouge, Syrah, Grenache. Avec deux vins nature, d'accord ? Qui s'appelle Mystère Olivier de Serre, donc un rouge, et Mystère Blanc, donc avec un Viognier et un Vermentino aussi. Sylvain, plus le pétillant. Donc on produit un pétillant naturel, donc on l'a déjà présenté tout à l'heure. Voilà, aujourd'hui c'est autour de 1500-2000 bouteilles produites. Et donc les vins sont commercialisés, pour l'instant en partie sur le domaine, parce qu'on a un point de vente, mais aussi à travers un réseau local de distributeurs, comme des points de vente collectifs de produits, comme le village des producteurs par exemple, mais aussi un certain nombre de restaurateurs ou d'épiceries ou grandes et moyennes surfaces du territoire des Chaux. Est-ce que vous avez des questions?
La fermentation, c'est en durée, c'est...
C'est très variable, ça va être de 10 à 12 jours. Alors, parce qu'on a deux types de fermentation. La fermentation donc, alcoolique et ensuite la fermentation malolactique, qui va être fonction aussi des conditions d'ambiance dans la cave, notamment de température, parce que la fermentation malolactique intervient après la fermentation donc, alcoolique, et c'est-à-dire en début d'hiver, quoi, fin d'automne, début d'hiver.
Qu'est-ce que vous pensez du projet dans l'ensemble ?
Je trouve ça pas mal, surtout ce qui m'a plu, qu'ils font 500 litres au jour, avec 268 chèvres, je crois.
Bah, ça peut être une bonne expérience.
Ouais ? Dans quel sens ?
Bah, je sais pas.
Ça nous permet d'avoir une expérience professionnelle.
C'est très enrichissant et ça peut nous servir pour la présentation du chef-d'œuvre. C'est un examen qu'on doit avoir pour le bac.
Bah, moi, je pense que c'est une belle expérience.
Oui, bah, je trouve que le projet, il est intéressant. Et après,
Moi, je trouve que c'est bien parce que ça fait comme si on avait un peu une vraie exploitation où on commercialise nos produits après.
Voilà.
Je trouve que c'est vachement bien. Après, on va vendre nos produits et on va voir les gens, on va aller sur les marchés, on va les vendre et bah, c'est pas mal, quoi.
Cette journée était donc l'occasion de regrouper une cinquantaine d'élèves pour leur permettre de se rencontrer et de découvrir, à travers des ateliers pédagogiques, les produits locaux qu'ils devront mettre en valeur. Cette journée riche en découvertes vise à renforcer le lien des élèves avec le patrimoine gastronomique et culturel de l'Ardèche, tout en enrichissant leur parcours éducatif. Les trois lycées vont collaborer avec l'association EPA, Entreprendre pour apprendre Auvergne-Rhône-Alpes, agréé par le ministère de l'Éducation nationale, son expertise sera précieuse pour accompagner, suivre et valoriser ce projet lors d'événements dédiés.